qui se lève.
WFM 93.
Dilemme.
Le jeu s'appelait autrefois. Est-ce que je vais essayer de le dire? J'ai tellement de misère à le dire que j'ai décidé d'appeler ça dilemme. D'abord, le français plus court.
En français.
La preuve. Would you rather?
Okay. Ah, c'était bien, bravo.
Le jeu,
c'est bien. Ouais.
Le jeu s'appelait autrefois comme ça. Mais moi, j'appelle ça dilemme. Cinq questions, j'essaye de tenir les comptes, mais là, j'ai de la misère à tenir les comptes. Ça fait que, Pascal, toi, tu comptes la réponse A.
Parfait.
Puis moi, je vais essayer de compter les réponses B.
Parfait.
Ça fait
okay.
OK. Alors, les choix que nous avons.
Parce que les gens peuvent jouer avec nous. Là,
les gens peuvent jouer avec nous. J'essaye de tenir une statistique pour voir quelle est l'option que vous préférez. Et, alors, est-ce que vous préféreriez vivre en Antarctique ou dans le désert du Sahara?
Hey, ça,
l'Antarctique
c'est...
ou le désert du Sahara?
C'est la question la plus facile à laquelle on peut répondre. Là.
La
c'est...
place où il fait frais, la place où il fait chaud.
C'est de loin l'Antarctique, là.
De loin l'Antarctique.
Ah, de loin, parce que quand il fait froid, là, tu peux t'habiller pour ne plus avoir froid. Mais quand il fait chaud, là, à un moment donné, tu peux plus te déshabiller. Puis moi, j'ai toujours été habitué au froid, et le froid, j'ai pas de problème avec ça, c'est facile. Moi, j'ai toujours voulu rester en Alaska parce que c'était simple là-bas. Fait jamais chaud.
Sais-tu, moi, je préfère tous les paysages et ce que tu vas pouvoir voir en Antarctique, mais je vais choisir de vivre dans le désert parce que si je me rapporte à l'hiver qu'on a, quand on a froid, là, c'est extrêmement dur de se réchauffer. Tandis que quand on a chaud, je trouve que c'est plus facile de se refroidir, de se rafraîchir. J'ai toujours trouvé ça plus...
Désert, là,
Ben, j'y étais, puis écoute, j'ai survécu, là, à un moment donné, habille-toi en long, en pâle.
En long?
Oui.
Dans
en
le
long,
désert.
En pâle.
Oui.
En long, en pâle. Pis...
Pour pas te faire brûler.
C'est la nuit que j'ai passée la plus douloureuse et difficile de toute ma vie parce qu'on nous avait dit, attention, quand vous allez dormir dans les petites tentes, il y a plein de bébites qui peuvent entrer dans n'importe quel orifice de votre corps.
Miam!
Je veux dire que j'ai jamais porté autant de vêtements. Je me suis levée ankylosée parce que j'avais tout serré. Là.
Ouais.
Rien n'a pu entrer nulle part.
Oui, mais ça te fait juste des protéines si ça rentre, là.
C'est parce que ça rentre dans... Ouais, non, ça va. Moi, quand on m'a dit tous les orifices, ça a arrêté là. On a mal passé
vite. Il y a quelqu'un qui dit en Antarctique, mais pas pas avec la mère de Myriam.
Et toi, Myriam?
Moi, c'est l'Antarctique. Sans la moindre hésitation.
Ah oui, hein?
Oui. Parce que en Antarctique, il fait froid, mais tu peux toujours te réchauffer. Tu peux toujours rajouter des vêtements.
Ouais.
Tu peux toujours te réchauffer. Quand t'as chaud, là, tu peux pas te refroidir tout le temps. Tu y arrives pas.
Exactement.
Moi, je suis capable de faire une grande marche en raquette en Antarctique sans geler, mais je suis pas capable de faire une grande marche dans le désert sans crever.
Faut que tu manges deux fois plus, faut que tu bouges constamment, faut que tu trouves du feu si t'en as pas,
Non.
Tu restes pas dehors.
Ben, t'es fragile aux
engelures. Pour marcher, tu génères ta propre chaleur. Je sais pas, écoute, j'ai été, moi, dans le parc de Saguaro, qui est un parc de cactus. OK, je vais y retourner l'année prochaine en hiver, là, parce que l'été, il faisait 49 degrés.
Un parc de cactus en hiver, oui, mais il n'y a pas l'hiver là-bas.
Non.
Là.
Oui, ils ont un hiver. Il y a un hiver partout.
Oui.
OK?
C'est juste qu'il est différent.
Sauf en Équateur, il y a un hiver. OK? Bon, donc, je vais y retourner, mais quand j'ai été en été, il faisait 49 degrés cette journée-là. Ça a été impossible de marcher. La sueur s'évaporait à mesure qu'elle arrivait. J'avais un cercle blanc autour du front. Tandis qu'en Antarctique, je peux rajouter des couches, je peux m'habiller, je peux marcher, je peux me donner du mouvement. Je suis pas pognée à pas bouger parce qu'il fait trop chaud.
Ah, moi, quand l'engelure me pogne, là, je sais pas s'il y en a des fragiles aux engelures aussi. Une fois que t'en as une, elle revient après 30 secondes à l'extérieur si t'as pas l'équipement, puis ça coûte extrêmement cher. Et Michel qui dit, les bédouins dans le désert sont extra habillés justement pour se protéger de la chaleur. Puis il dit aussi, une maison bien isolée, chaude en hiver et fraîche en été. Voilà, c'est ce que ça vous prend.
Je sais pas à combien t'es rendu pour l'Antarctique, mais moi, je suis à 3 pour le Sahara.
Moi, je suis à 6 pour l'Antarctique.
Plus Alexis, plus moi, moins toi.
OK, c'est ça.
Ça fait que...
T'es encore tout seul.
Je suis à 8 pour l'Antarctique.
Encore tout seul de sa gang à vouloir aller crever dans le désert.
Il y a même Michel qui écrit, voyons Pascal, tu dis tout le temps que t'aimes l'hiver et tout ça. Quelle surprise ce matin que tu vivrais dans le désert. Ben, je l'ai expliqué, je préférais tous les paysages de l'hiver, mais jamais.
Elle préfère les bébites qui rentrent dans toutes les parties de son corps pour pas avoir froid.
C'est plus simple que ça, Pascal avait un...
Ça, c'est l'autre avantage de l'Antarctique. Il n'y en a pas de bébites en Antarctique à part les ours polaires et les renards arctiques.
C'est vrai.
Puis les manchots. Les manchots, c'est-tu là? Oui, c'est dans...
Ça commence à faire 3 bébites, là.
Oui, mais c'est des grosses bébites qu'on voit venir de loin. Ils viennent pas insidieusement, comme le scorpion, rentrer sur le long de ta jambe, puis te réveiller la nuit.
Mais t'as pas compris la logique de Pascal, c'est simple. Elle veut les paysages d'hiver quand il fait chaud. Elle aimerait ça un hiver à 20 degrés.
C'est pas très logique. C'est pas très logique. Non, mais c'est parce que, comme je l'ai dit, je suis plus capable de me rafraîchir que de me réchauffer par moi-même.
Question numéro 2 des dilemmes d'aujourd'hui.
Oh, oh, oh.
Préférez-vous vous cogner l'orteil sur une patte de lit
Colin.
Ou vous donner un coup de marteau sur le doigt?
Oh. Le coup de marteau sur le doigt. Et de loin.
Oh oui, le coup de marteau... mon père travaillait sur la construction, puis j'étais habitué d'avoir des coups de marteau sur les doigts au début. Là.
Attends, puis je vais rappeler aux auditeurs, à partir de maintenant, A, c'est l'orteil, et B, c'est le coup de marteau.
C'est ça.
OK, je compte B, moi?
Oui.
OK.
Non, sincèrement, vraiment le coup de marteau, parce que je trouve que ça résonne moins longtemps. Ça fait mal, là. C'est une pression que tu reçois, tandis que l'orteil, ça te paralyse. Il faut que tu... utilise la méthode que les gens qui sont dans les autorités utilisent. Soit, si mettons, un pompier se casse une jambe en plein feu, il faut qu'il se concentre sur d'autres parties de son corps pour réussir à sortir. Le mental est extrêmement fort. C'est constamment ce que je fais, moi. Si je me pète un orteil sur un meuble, je me dis, mais non, mon pied droit, tout va bien, j'ai pas mal. Ça fait tellement mal. Je comprends pas qu'un orteil sur le coin d'un meuble, ça fait aussi mal.
Ah, ça fait très, 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 très mal. Moi, je me suis cassé un orteil.
Comme ça?
Hein? Oui. Le gros orteil, puis j'ai toffé pendant quoi 6 mois à faire quand même mes marches, puis avoir mal tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai été voir un médecin qui m'a dit « Ça se guérit pas tout seul, faut vous opérer. » Et là, il m'a cloué 2-3 affaires dans l'orteil, puis c'est correct. Bon. Moi, je choisis le doigt.
Ah ouais, autant aussi.
Je me donne un coup de marteau sur le doigt parce que ça ne vient pas handicaper ma mobilité. Et si j'ai le génie de me taper sur le doigt, tu sais, d'habitude, quand tu cloues, tu tiens ton marteau de la main droite, donc de ta main la plus utile. Puis donc, tu te cognes la main gauche, qui est la main la moins utile. Moi, me taper sur la main gauche, ça me dérange pas. Je ne perds ni mon habileté manuelle, ou le peu qui m'en reste, ni ma mobilité. Parce que perdre ma mobilité, pour moi, ça c'est dramatique.
Ben, c'est très intelligent. Il y a Lise qui dit, l'enjeu, c'est pas de choisir A ou B, c'est de pas sacrer quand les situations arrivent.
Ouais, c'est parce que quand l'orteil, en plus, là, t'es une pure victime. Dans le sens où t'as pas demandé ça. Quand tu prends le marteau, là, tu dis, il y a quand même un certain pourcentage de chance que je le manque puis je me tape sur le doigt. Mais c'est vraiment insidieux. Là. Ton orteil sur le coin du lit, là, tu l'as pas vu venir, t'es convaincu qu'il y a de la place, mais non, bang, t'accroches le coin. T'es pas prêt, là.
C'est partagé, hein?
C'est
5.
Mais moi, ça me surprend même les résultats quand même.
C'est 5 à 5 à peu près, c'est ça?
Non, 7 à 4.
Donc, 7 pour l'orteil, 5 pour le doigt. Étrange. OK, je sors d'une crise de goutte, vive le marteau. Oh, ça doit être douloureux. Ça, c'est douloureux, la goutte.
C'est quoi ça?
La goutte, c'est... Attends, j'ai un ami qui a déjà eu ça. C'est des espèces de cristaux qui voyagent dans tes artères et qui viennent te donner des douleurs épouvantables le long de la jambe, dans le pied, de la jambe.
Ce qu'on dit, c'est la présence continue de cristaux d'acide urique dans l'articulation et autour de celle-ci, ça peut mener à la destruction de l'articulation et des tissus mous.
Oui, les crises de goutte, c'est terrible. Ça vient souvent d'une malfonction du rein.
Aïe, aïe, OK. Bonne chance. On vous en souhaite pas une autre.
OK. Ni l'un ni l'autre. On repart ça, l'ardoise à zéro?
Oui.
OK. Préférez-vous être le meilleur joueur d'une équipe poche ou le pire joueur d'une très bonne équipe?
Ah, c'est difficile.
Attends un peu, redis ça, là.
Préférez-vous être le meilleur joueur d'une équipe vraiment poche?
Oui.
Ou le pire joueur d'une très bonne équipe?
Ah, c'est difficile. Soit t'es la risée de ton équipe, genre le handicap de ton équipe, tu ralentis le groupe, ou encore t'es le meilleur.
A, c'est le meilleur, B, c'est le pire.
Hey, c'est difficile. Je pense que j'aimerais mieux être...
Moi, je vais me risquer. Je pense que j'aime mieux être le meilleur joueur de mon équipe poche. Parce que, ça, ayant commencé tard à jouer au hockey, notamment, je me suis ramassé dans les niveaux les plus bas. Là. Parce que, c'était pas si mauvais, mais les équipes sont toujours déjà faites d'avance au hockey mineur, de toute manière. Là. Puis je me suis souvent retrouvé être dans les meilleurs de mon équipe, qui était dans les moins bonnes. Puis, c'est pas si pire que ça. Mais être le boulet de mon équipe, là, je serais pas capable d'être le boulet. Autant je me défoncerais pour ne pas nuire, mais je serais pas capable de me faire regarder de travers et de sentir que je nuis. Tu sais, je comprends que t'as toujours besoin d'un moins bon dans une équipe, là, mais ça m'intéresse pas d'être ce joueur-là. Puis si j'ai pas ma place là, ben j'aime mieux être un
place,
niveau
en bas.
Ta place,
c'est juste le moins bon. Ben, c'est comme dans le Canadien. Le Canadien, ils n'ont des pourris, mais ils n'ont pas le choix.
Hey, moi, je pense que je vais être le boulet de l'équipe. Parce que je crois avoir une capacité de rassembler les gens. Fait qu'au moins, je vais faire ça. Au moins, si je compte pas de but ou quoi
tu
que ce soit.
Tu vas être bonne dans le vestiaire.
Je vais être fine avec les gens. Je vais leur apporter des galettes. Je vais les encourager. Puis au pire, il y en a un qui dira, ben la pauvre CV, on va l'aider à s'améliorer un peu. Tu sais, quand t'es entouré des meilleurs, veux pas, tu deviens meilleur.
Moi, ça, c'est bon, ça, oui.
Moi, je pense que je préférerais être le pire joueur d'une équipe poche.
Toi aussi, hein?
Ouais. Le pire joueur d'une équipe poche, il apprend. T'apprends pas avec des pires que toi, t'apprends avec des meilleurs que toi.
Totalement d'accord.
Bon, c'est vrai.
D'une part, il apprend.
Puis sinon, tu t'assois sur ton steak.
Il peut jouer d'autres rôles également dans l'équipe.
C'est ça.
Combien de joueurs médiocres sont en réalité des ciments dans leur équipe?
Voilà.
Faut juste que tu sois conscient que t'es le plus poche, que t'essayes pas de te faire croire que t'es le meilleur, puis que tu prennes ta place.
Alors, t'as la même vision que moi.
C'est oui.
OK, on va être des motivatrices, Myriam. Bon, toi, un peu pessimiste quand même par moment, là.
Moi?
Ben oui, un joueur de blessé. Ah, oh, c'est pas grave, lui qui est blessé. Mettons, il vient de perdre ses deux yeux, il a le crâne fendu, puis il a ses deux jambes cassées, tu dois tant pis pour lui.
Ben là, c'est parce qu'il a choisi sa vie, là.
C'est ça.
Si je choisis de sauter en parachute, je prends le risque, il s'ouvre pas, là.
Ouais, mais c'est bien le fun. Faudrait que tu le fasses, ça, justement.
Il y en a pas question.
De ça, hein?
Beaucoup de gens choisissent d'être le boulet. T'sais, André dit le boulet parce que si on l'est, ben on peut être bon quand même dans d'autres choses, comme un peu ce qui nous rejoint. Esther qui dit le B parce qu'au moins ton équipe a des chances de gagner puis ils vont finir par s'asseoir sur le banc avec toi puis tu peux devenir un meilleur motivateur. Quelqu'un qui nous dit, il répond pas trop, mais l'estime de soi est supérieure à celle du collectif. La possibilité de progresser dans les meilleures équipes et de bien performer est bien plus atteignable. Fait que finalement, il voudrait être aussi le nul de l'équipe, cet auditeur-là.
OK. Là, c'est parce que là, attends un peu.
L'avantage.
Lui, je le compte dans ma gang.
Oui.
OK, je le compte dans ma gang.
Oui,
ça marche.
Oui.
Donc, moi, je suis à 5. Toi, tu es à combien? Ah, je suis rendu à 6, c'est un peu. Donc, la plupart des gens préféreraient être un pas bon parmi les bons qu'un bon parmi pas bons.
J'ai 4 personnes qui voudraient être le meilleur, mais sinon 9 qui voudraient être un pas bon.
La meilleure équipe est toujours sur le party. Ne viens de ramasser un 7e.
Oui, ça, c'est une autre motivation.
Et c'est intéressant. Donc, 7 à combien de 5?
9, moi, j'ai.
T'en as 9?
J'ai 9 à 4.
9 à 4.
Mais ça rentre vite. Peu importe, celui qui a gagné, c'est celui qui tout le monde veut être le plus poche dans l'équipe. Ce qui est quand même intéressant, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'orgueil et d'égo là, qui sont à l'écoute ce matin.
OK. Mais c'est. Ouais. Non, c'est pas que on n'a pas d'égo. Mais en fait, tout le défi, c'est de savoir où tu te situes dans un groupe. Peu importe ce que tu sois le meilleur ou que tu sois le pire, tu dois savoir où est-ce que tu te situes dans un groupe et travailler pour le groupe.
Quelles sont tes forces et amplifie-les.
C'est ça.
Intéressant.
OK, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous préféreriez? Avoir votre premier enfant à 19 ans ou à 42 ans?
Oh mon Dieu, Myriam est tough, ça.
Ah, ben non. 42.
42
de loin. Oh oui, ben ma blonde, elle aime pas ça, là, parce que...
Tu vas être à l'âge de la retraite quand tu vas avoir 25 ans.
Mais c'est pas grave, ça. Moi, j'ai toujours voulu avoir mes enfants plus tard, puis ma blonde, elle la capote parce qu'elle veut les avoir bien plus jeunes. Mais moi, 42 ans, ça me dérange pas. À la limite, je vais juste être encore plus établi dans ma vie.
Là. Répondez 19 ou 42, OK? Qu'on mêle pas avec les A puis les B.
Oui, c'est ça, c'est bon ça. C'est très difficile, je trouve, parce que le 42, il va très, très loin, selon moi. T'as des complexités aussi dans ta grossesse qui peuvent arriver à ce moment-là, mais si t'as 42, ça veut dire que tu l'as mis au monde, ton enfant, là, ton premier enfant. Ça veut dire que passe les premières années difficiles. Pas sûr que ça va te motiver à en avoir un autre plus tu vas vieillir. Fait que je vais choisir le 19. même si ça va me priver de bien des choses dans ma vie, au moins, je vais être là pour mes enfants bien plus longtemps. Je vais voir leur réalisation. Je risque de voir mes petits-enfants. Mais surtout, à pas me décourager après un enfant.
Ah, je sais pas si c'est féminin, ça. Je pense que les femmes vont avoir plutôt tendance à choisir le 19 et les hommes 42.
Mais oui, parce qu'on sait c'est quoi. C'est complexe, le 42, ben, avoir
c'est
un ça, enfant.
C'est
là.
Pas pareil.
Hey, moi, j'ai eu tard, mes enfants. Mon premier, c'était, j'avais 37 ans. Donc, ben, je suis plus proche du 40. Ben oui. Est-ce que je le regrette? Je suis pas capable de regretter ce que j'ai vécu, moi.
Ah, mais tu y repenses?
Je pense que 42, je trouve que c'est un peu étiré.
Ouais.
Mais 37, 38, 39, pas de problème.
Ben, ça s'en va de plus en plus là. Hein. Quand tu parles aux générations, là, mettons qu'ils vont avoir des enfants prochainement, ben c'est ça, ça s'étire. Ils s'établissent dans leur carrière, ils vivent leur vie de jeunesse, puis après ça, ils sont prêts à avoir des enfants. Puis souvent, ça fait des enfants qui vont être plus matures aussi. Mm-hmm. Parce que les parents étaient prêts à les avoir. Bon, vous me direz, il n'y a jamais de bon moment, effectivement, mais...
Mais tu sais, à 42 ans, un des problèmes, c'est vrai qu'à 19 ans, on est plus souple. On s'adapte, on apprend, et on a aussi plus d'énergie.
Mais plus impulsif aussi, je pense qu'on a moins de patience.
Je le sais pas. Je le sais pas. Mais à 40 ans, là, tu t'épuises plus vite. Tu te fatigues plus vite. Puis pour suivre ces petits monstres-là, il faut quand même avoir pas mal d'énergie. Moi, ça m'a gardé jeune de les avoir tard. Ça m'a gardé jeune plus longtemps.
Ouais, mais t'étais
Moi, je me sens plus comme une X que comme une boomer.
Ouais.
Parce que mes enfants, quand j'avais 50 ans, ben, ils avaient 10-12 ans.
Mais sincèrement, là, je crois qu'à 42, t'es plus apte à avoir des enfants parce que t'as passé plusieurs tempêtes, t'es capable de les prendre, d'être relax aussi dans les épreuves de la vie. À 19 ans, t'es impulsif, tu prends les épreuves de la vie comme si t'étais à la fin du monde. Je veux dire, une rupture devient, la fin de ta vie, un drame. Bon, pas pour tout le monde, mais je pense que t'es plus apte à avoir des enfants à 42 ans. Mais comme Nadia a dit, j'ai 42. No way, un autre enfant. Fait que s'il fallait que ce soit son premier, ça finit, sa famille serait terminée.
Il y en a un qui joue pas le jeu, il dit 30 ans.
Ben là, ça marche pas,
Michel. Ça marche pas. Faut jouer le jeu, OK? En fait, l'idéal, là, c'est de les avoir soit à 19 ans, soit à 40 ans. Parce que à 40 ans, t'as eu le temps de vivre plein de choses avant, notamment de voyager, pendant que t'es en forme.
Bon, oui.
À 19 ans, t'as le temps de vivre plein de choses après. Parce que à 40 ans, t'es encore en pleine forme pour voyager.
Puis tes enfants sont devenus assez vieux pour
Si tu les as à 30 ans, ça veut dire que t'as 50 ans quand tu peux lâcher les lâcher l'ousse ou à peu près, t'as 55 ans. T'as comme pas eu le temps non plus de construire ta carrière entre 20 et 30 ans.
T'es encourageante? Moi, je visais le 30.
Mais 30, c'est idéal, ça. Moi, je suis convaincu que 30, c'est l'âge idéal.
Ben, je sais pas, Myriam vient de me convaincre que non, là.
J'ai perdu le compte, là, mais...
Moi, je suis à 11 pour 19 ans.
Et moi, je pense que je suis à 7 pour 42.
Oui, c'est ce que j'aime aussi pour toi.
Donc, la majorité des gens préfèrent les avoir jeunes. Et en santé. Mieux vaut être jeune et en santé que vieux et malade. Bon, il est 8h57.